Radio FM Plus est partenaire de l'édition 2017 de Montpellier Danse du 23 juin au 7 juillet à Montpellier. Tous les jours à 20h, retrouvez une rediffusion de conférences réalisées par le festival au Jardin de l'Agora. Aujourd'hui, au micro de Liz Hott, Lucinda Child, Marie-Hélène Rebois, réalisatrice, et Yorgos Loukos du Ballet de l'Opéra de Lyon pour la création Dance.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, plateau un peu extraordinaire aujourd'hui, avec la présence donc à ma gauche de Lucinda Childs, que je ne pense pas avoir l'obligation de présenter parce que beaucoup la connaissent. À côté d'elle, Marie-Hélène Rebois, qui a été donc une des chevilles ouvrières du remontage de Dance que l'on va voir ce soir. Et puis donc, Yorgos Loukos, qui est directeur artistique du Ballet de l'Opéra de Lyon et dont les danseurs ont été amenés donc à interpréter à nouveau ce ballet. Ma première question sera pour Lucinda Childs. Vous êtes déjà venue deux fois à Montpellier. En 2000, vous avez présenté cette pièce, dont Dance, qu'on a pu voir à ce moment-là. En 2006, on a vu Concerto, qui était interprété par le Grand Ballet Théâtre de Genève. Vous fêtez aussi, alors c'est au hasard de mes recherches, vous fêtez aussi la première reconnaissance en France qui s'est faite en 1977 à l'occasion du Festival d'automne. Donc, bonjour à vous.
Merci.
Donc je voudrais revenir sur Dance parce que c'est une pièce donc que vous écrivez en 1979, dont on peut dire que c'est une pièce historique aujourd'hui, vue de loin, et elle l'est pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'il me semble qu'en fin de compte, comme elle est écrite avec un compositeur célèbre tel que Philip Glass, et donc un plasticien non moins célèbre tel que Sol LeWitt, vous reprenez dans le processus de création des éléments constitutifs de ce que faisaient déjà les ballets russes. Et en même temps, vous les bouleversez complètement. Alors, vous les bouleversez complètement parce que il y a un lien très étroit entre l'écriture chorégraphique et l'écriture musicale, sur laquelle j'aimerais que vous disiez quelques mots. Et en même temps, vous avez été quelque temps avant interprète de la compagnie de Merce Cunningham, qui lui, de son côté, établit le processus de création sur une différenciation totale de l'écriture chorégraphique et de l'écriture musicale telle que l'amène John Cage. Donc vous choisissez tout au contraire de mener une création dans laquelle écriture chorégraphique et écriture musicale se répondent. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce qu'il y a aujourd'hui, nous n'avons que demi-heure, donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais néanmoins nous rappeler comment vous avez conçu ce processus d'écriture à deux voix, on va dire.
Oui, c'est vrai que chez Cunningham et John Cage, vous avez une coexistence. Je ne sais pas si c'est un mot en français.
De toute façon,
la musique et la danse, ça coexiste absolument dans une façon telle que parfois les danseurs n'écoutent pas la musique avant le spectacle. C'est peut-être pendant le spectacle, le vrai spectacle, la performance, qu'elle écoute pour la première fois la musique de John Cage. C'est-à-dire que Cunningham a gardé avec les danseurs en répétition une pulsation de 2 secondes qu'il fait comme ça pour les danseurs et travaille comme ça. Et moi, j'avais l'occasion, comme étudiant, malheureusement, je n'étais jamais interprète de Cunningham, de toute façon, comme étudiant du Cunningham dans les années 60, même dans les années 50, j'avais l'occasion de vous regarder une répétition de Merce avec les danseurs, dans lequel, comme ça, les danseurs gardaient cette pulsation de 2 secondes pendant 1 heure. Et je trouve vraiment extraordinaire. C'était comme ça, peut-être, que j'étais inspirée de travailler comme ça avec ma propre compagnie dans les années 70, sans musique du tout, d'avoir l'expérience de garder comme une équipe une espèce de pulsation commune parmi les danseurs, de partager quelque chose comme ça. C'était très, très difficile, mais ça m'intéressait énormément avant que je l'avais rencontré Phil Glass. Quand je l'avais rencontré Phil Glass, j'ai vu, c'est une espèce de musique dans un sens digital, parce que vous avez les comptes de 2 ou de 3. C'est 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, etc. C'est les mélanges comme ça. Et j'ai trouvé qu'il y a un parallèle avec l'esthétique que j'ai. Ah bon? L'esthétique que j'ai avec mes danseurs. La même façon de trouver les variations avec le thème, mais avec pas du tout la musique, mais avec les variations construire dans la même façon. Donc pour nous, c'était une question comment on peut faire les deux choses ensemble. Et c'était à cause de Einstein on the Beach, la première fois pour moi de travailler avec Phil Glass, même avec un compositeur, que j'ai cherché avec lui une façon de mettre la chorégraphie et la musique ensemble, de ne pas une réflexion, pas une contradiction, mais de trouver une façon d'avoir une espèce de dialogue.
Et ce dialogue se construit avec les mathématiques que vous élevez à la fois vous-même et puis aussi Phil Glass à une dimension esthétique. C'est l'esthétique des mathématiques qui est en jeu.
C'est vrai, la mathématique, c'est utile. Comme ça, tous les danseurs savent où ils ont exactement à chaque seconde dans la musique. Et c'est important, même qu'ils ne dansent pas. Il faut que tout le monde sache où ils ont. Sinon, on peut pas avoir une espèce de précision que j'ai besoin pour toutes les relations des danseurs avec la musique.
Alors, en même temps, au moment où vous écriviez cette pièce, vous rendez hommage tout d'un coup, de manière tout à fait contradictoire et étonnante pour l'époque, vous rendez hommage à la technique des ballets classiques, dont vous dites que ce sont des danseurs qui sont capables de mémoriser plus facilement que d'autres les séquences que vous construisez en lien avec la partition musicale.
Oui, il ne peut pas penser à autre chose. C'est ça qu'il dit, c'est vraiment très rigoureux. Il y a même les notations dans les coulisses, mais il n'a pas le temps de regarder. Parfois, avec le ballet de Lyon, il y a les autres danseurs dans les coulisses qui aident les danseurs qui dansent.
Oui, oui. Donc, il y a un autre élément extraordinaire dans la conception de ce ballet, qui est composé de 17 danseurs. Il y a aussi donc la participation de Sol Lewitt. Donc, lors du processus de création de cette pièce, vous avez une discussion avec Sol Lewitt et vous imaginez donc de situer Sol Lewitt à l'intérieur même aussi du processus de création, c'est-à-dire qu'il fait un décor qui a un lien très étroit avec le déroulement de la chorégraphie, de l'écriture chorégraphique.
C'est vrai que quand j'ai contacté Sol Lewitt avec Phil Glass, nous avons une rencontre de lui dire que nous avons un grand besoin, s'il peut travailler avec nous. Il lui dit, c'est pas intéressant pour moi de faire une espèce de création sculpturelle ou abstraite, etc., devant lequel vos danseurs vont danser, parce que votre travail c'est abstract et compliqué et mon travail, etc., il va pas du tout faire une espèce de décor traditionnel comme ça. Donc on en a parlé depuis des mois et puis enfin on a décidé que le décor doit être les danseurs, et c'était pour ça petit à petit on a trouvé cette solution du film. C'est-à-dire une façon d'être dans le ballet avec les danseurs, devant, derrière, à côté, etc., etc. Et tout ce qu'il a fait avec le film, c'est extraordinaire. Mais l'idée, le concept, c'est d'éviter ce concept traditionnel du décor.
Mmh. Voilà. Alors donc, lors du remontage de cette pièce, donc en 2016, avec le ballet de l'Opéra de Lyon, il y a un problème qui se pose justement avec ce film, qui est un film qui a été réalisé en 35 millimètres, et donc vous décidez avec Marie-Hélène Rebois d'en faire une nouvelle version. Donc là ma question va être plutôt dirigée à l'intention de Marie-Hélène, qui est réalisatrice, qui a fait beaucoup de films sur la danse, on y reviendra peut-être plus tard, mais en tout cas voilà, il fallait reprendre les éléments constitutifs de ce film, c'est-à-dire quand même ça nécessitait une gymnastique, je dirais, de la position des caméras dans l'espace, du lien avec le sol aussi, qui est un quadrillage, qui est l'œuvre de Sol Lewitt aussi, n'est-ce pas?
Absolument, oui. Donc en fait, j'ai connu Lucinda en 2014 au Théâtre de la Ville, au Festival d'automne. J'ai filmé Dance avec le film de Sol Lewitt pour France TV 2. Voilà, donc j'ai rencontré Lucinda. Et quand elle a eu ce projet avec Yorgos et le ballet de l'Opéra de Lyon, elle a demandé à ce qu'on refasse ce film, pour que ce soit retrouve la dynamique de la création, c'est-à-dire les mêmes danseurs sur l'écran que sur la scène. Et là, elle m'a demandé si je pouvais faire ça. Et je vous cache pas que ça a été une question délicate pour moi, parce que d'abord c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, beaucoup de gens m'ont déconseillé de me lancer dans une opération qui pouvait paraître extrêmement blasphématoire par rapport au personnage et surtout la présence de Lucinda dans le film, qui évidemment apportait une mémoire et quelque chose de très à la fois histoire de l'art plus affective. Donc voilà, mais Lucinda m'avait dit je ne veux plus voir ses chaussures, je ne veux plus voir ce film, il faut qu'on arrive à refaire ce film. Donc j'ai trouvé une équipe technique excellente, puisque en fait c'était un travail technique, et j'ai vraiment fait un remake, c'est-à-dire j'ai cherché la fidélité la plus totale. Voilà, donc ça a été très compliqué techniquement, mais je crois qu'on a eu des conditions favorables. On a eu un studio de cinéma et on a fait plan par plan. Et vous savez, c'est un film, vous verrez ce soir si vous voyez la pièce, qui a parfois 4 images dans le même écran. Donc il a fallu tout faire une nomenclature et il n'y avait aucune note de Sol Levitt. Donc il a fallu partir du film original, tout prendre, tout recopier, enfin au niveau de l'image et au niveau des perspectives, des focales. Enfin, ça a été très compliqué, des hauteurs de caméra, il y en avait au sol, il y en avait parfois en hauteur. Donc on a fait ça avec on a travaillé tout l'été avec Hélène Louvard, qui est une chef-op formidable. Et puis Anne Abeille, qui vous connaissez peut-être, Anne Abeille, qui
est les carnets bagouets.
Voilà, qui est devenue un peu ma script quand je peux la voir. Donc voilà, on a travaillé toutes les trois et on l'a fait. On l'a fait et on avait très peur que le résultat soit pas à la hauteur. Finalement, bah écoutez, la première s'est passée et je crois que tout le monde était content. J'espère que ce soir vous me direz si on a eu raison de le faire. Vous me direz après avoir vu la pièce.
Il y a suffisamment d'écart avec la présentation de l'année 2000 pour peut-être ne pas être aussi précautionneux sur les millimètres que vous aurez peut-être pas tout à fait retrouvés dans
la reprise.
Mais vous les avez retrouvés. Oui, vous signalez un aspect des choses qui est intéressant, c'est que vous parlez de des chaussures. En fait, à la création en 1979, les danseurs portent des chaussures de sport, des baskets blancs, hein, puisque que, je le rappelle, les danseurs portent un juste corps et un pantalon au pli ample, hein, qui est très ample avec ses chaussures de sport. Et là maintenant, vous avez opté donc pour des chaussons de danse. Quelle était finalement la raison pour laquelle, Lucinda, vous avez opéré cette modification ?
Pendant la période 70, Einstein on the Beach, par exemple, nous étions tous les danseurs en basket à ce moment-là. Et donc, naturellement, avec danse, on a fait plus ou moins la même chose, mais je trouve pour cette période, pour cette formation de danseurs, c'est pas vraiment efficace. Et j'aime beaucoup mieux maintenant de voir le travail de danseurs sur le pied, que c'est magnifique, à mon avis. Et je ne veux pas le cacher.
Alors, un autre élément que je voudrais vous amener à préciser, et puis nous allons voir un petit peu donc ce qu'il en est de la compagnie du Ballet de l'Opéra de Lyon, qui est partenaire extraordinaire de ce projet de remontage. Il y a un port de bras qui a été signalé comme étant particulièrement, je dirais, jouissif au regard, parce qu'il est très différent des ports de bras que l'on peut repérer dans le ballet classique, et qui là, ici, sont libérés des codes classiques et qui, en même temps, sont liés à tout le mouvement que fait le corps, aussi bien de la tête que du buste, évidemment, accompagnant les sauts et les pas qui constituent donc la matière même de l'écriture chorégraphique.
Oui, c'est vrai que tous les pas sont exacts, la chorégraphie exacte de 1979, mais le mouvement des bras, c'est toujours libre. Les bras sont utilisés dans une façon de se débrouiller avec le changement de direction. Le changement de direction, c'est toujours très rapide. Et c'était important pour les danseurs de ne pas avoir toujours une position fixe pour qu'ils puissent exécuter les changements de direction rapides. Et j'aime aussi la liberté qui existe avec cette possibilité, ce genre de recherche avec le mouvement des bras par rapport au changement de direction.
Est-ce que c'était, je dirais, l'un des éléments les plus complexes à transmettre aux danseurs du Ballet de l'Opéra de Lyon ?
Non, pas du tout, mais j'ai pas voulu du tout qu'ils voient le film. J'ai vu que chaque danseur trouve son propre façon de trouver la façon de utiliser les bras pour qu'ils puissent faire les mouvements avec
un lâcher prise
naturellement. C'est naturellement, c'est pas, c'est naturel.
En même temps, c'est un lâcher prise très tenu.
Hein. C'est différent, c'est très différent. Normalement, les danseurs savent exactement quoi faire avec les bras, et c'est une position fixe ou quelque chose chorégraphié dans une façon très exacte. Et c'était un côté un peu libre.
Alors j'en viens maintenant donc à une question.
Est-ce que je peux dire
encore un mot? Oui, bien sûr, Marie-Hélène.
Juste dire que la technique cinématographique a beaucoup évolué depuis 1979, que nous avions des conditions techniques excellentes et que donc vous verrez, enfin, c'est assez beau de voir cette image avec cette précision et cette fraîcheur. Et d'autre part, quand on a vu la première, qu'on a pu voir les répétitions, qu'on a vu les mêmes danseurs faire le même geste au même moment sur l'écran et sur la scène, c'était vraiment, vraiment réjouissant. Voilà. Dynamique, neuf, voilà.
Merci Marie-Hélène. Alors donc une question maintenant pour Yorgos Loukos. Vous êtes à la tête du Ballet de l'Opéra de Lyon depuis 1991. Et,
Avant
même. Ouais. Alors oui,
84. On était deux, mais j'étais déjà en 84.
Avec Françoise Adré. Voilà. Très bien. Et donc, il y a quelque chose d'extraordinaire concernant maintenant les compagnies de ballet qui ont été fortement remises en question par la jeune danse française des années 80. On s'en souvient. C'est qu'aujourd'hui, et c'est le cas du Ballet de l'Opéra de Lyon, vous êtes la mémoire. Vous êtes à la fois la mémoire des pièces historiques, mais vous êtes aussi la mémoire, finalement, des pièces à venir, puisque le Ballet de l'Opéra de Lyon, je le dis maintenant, et puis ça sera analysé plus tard. 10 danseurs du Ballet de l'Opéra de Lyon vont participer donc à la création d'Emmanuel Gatt, qui est présenté un petit peu plus tard. Mais venons-en au répertoire tel que vous le développez, vous le maintenez, avec la pièce historique de Dance. On s'aperçoit que finalement, il y a déjà dans le répertoire de l'Opéra de Lyon des pièces de Trisha Brown, des pièces de Merce Cunningham. Il y a aussi des pièces de ce qu'on appelait la jeune danse française dans les années 80. Quel était l'intérêt pour vous de maintenir vivant et d'introduire au répertoire des pièces historiques de la moderne danse et de la post-moderne danse?
Bon, je devrais dire qu'il y a une des particularités de la compagnie, c'est que c'est probablement la seule compagnie, pas seulement en France, même en Europe, qui a une relation aussi régulière et forte avec les États-Unis. Lucinda, on a travaillé ensemble, ça fait la première fois il y a presque 30 ans, parce qu'il y a 27 ans, Ken Nagano, qui était le directeur musical de l'opéra, m'a demandé de faire une soirée avec Frank Zappa. Et c'est Lucinda, Carol Armitage, Ralph Lemon, c'était en 80, je sais pas quand, 90 peut-être, 92, bon, 90. Donc, on n'a jamais arrêté depuis. Comme vous l'avez dit, nous avons 4 pièces de Trisha Brown, 4 pièces de Merce Cunningham, John Jasper, Stephen Petronio, Susan Marshall, Ralph Lemon, Bill T. Jones. Ça a été régulier en même temps. C'était pas seulement une compagnie tournée vers les États-Unis, puisque comme vous l'avez dit, on a eu régulièrement avec Maggie Marin, avec Christian Rizzo, avec Brej Lokaj, avec tout le monde. Je pense que la caractéristique, c'est du fait que c'était une compagnie où il n'y avait pas un chorégraphe comme directeur, parce que quand il y a un chorégraphe, il fait ses chorégraphies. Donc, on a eu cette façon d'être en contact permanent avec la danse qui évoluait d'une manière différente ici, là et là. Et on a continué à avoir les danseurs qui, tout en étant de formation classique au départ, ils étaient tous ouverts à apprendre et à utiliser d'autres techniques. Et ça, le chorégraphe l'apprécie beaucoup, parce que les danseurs, quand le chorégraphe arrive, il se met tout de suite à la forme que le chorégraphe demande. Et c'est une facilité de collaboration qui plaît aux uns aux autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bien sûr que si. Et alors, en même temps, je voudrais rappeler qu'en 1991, Jean Nouvel a renouvelé ou reconstruit, oui. Je ne sais pas les termes exacts, le studio de danse, ouais. Qui est l'ancien studio de danse où l'on pratiquait les exercices classiques, c'est ça?
Oui, en fait, le ballet, avant le rétablissement de l'opéra par Jean Nouvel avec 91, la compagnie n'était pas basée à l'opéra. On était à l'auditorium Maurice Ravel, parce qu'il n'y avait pas assez de place à l'opéra. Ensuite, il est venu, il a fait 2 studios, dont un grand studio en haut qui est magnifique. Et depuis, nous sommes là et donc on travaille là-bas, bien sûr, oui.
Et donc, pour terminer, avant de vous laisser la parole, bien sûr, Dan, c'est pour vous vraiment une pièce historique fondamentale de l'histoire de la danse américaine?
Absolument.
Vous pouvez...
Ah oui, c'était une chose que je voulais toujours. Au début, pour des raisons dont elle a parlé tout à l'heure, Lucinda, elle pensait qu'on ne pouvait pas le refaire, parce que reprendre le film avec les danseurs d'il y a 30 ans et montrer les danseurs d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. En fait, ce qui est l'idée même du projet est de voir les gens danser, voir leur image danser avec eux-mêmes. Donc il fallait tout refaire, ce qui était bien entendu une chose beaucoup plus difficile. Sur le plan, à la fois, il fallait trouver les collaborateurs, comment on allait faire financièrement, etc., etc. Donc on a voulu faire ça, et puis on est tous très contents.
Comment c'est ficelé, je vous laisse intervenir ensuite, comment c'est ficelé financièrement justement le projet?
Non, c'est-à-dire si on prend une chorégraphie, on enseigne, on répète pendant 3 semaines ou 1 mois, c'est une chose. Si en même temps il faut faire un film, on avait une équipe qui était quand même une équipe assez importante, on a trouvé un lieu, donc c'est à peu près le double de ce que ça coûterait donc, mais en fait ça valait la peine.
Très bien, Lucinda, vous vouliez intervenir?
Ouais, c'est grâce à Yorgos qu'il a compris que c'est nécessaire d'avoir le nouvel film, heureusement.
Donc on met bien l'accent sur le côté exceptionnel du remontage de cette pièce. Alors donc je vous passe la parole, des questions?
Est-ce que vous laissez des indications sur le processus de création?
Ah oui, il y a une partition, c'est-à-dire
Si on veut le refaire dans 30 ans.
Oui, mais justement, dans 30 répond, ans
elle répond, oui.
Non, le film, oui.
Ah, I don't understand. I don't understand.
If somebody wants to do it in 30 years from now, will you tell them how to do it, make the film again?
Ah oui, bien sûr, je vais parler du ciel. Je ne sais pas exactement. On n'a pas pensé à ça. De toute façon, toutes les compagnies maintenant s'en occupent de le problème, de le futur, de l'avenir. Et je pense que Cunningham a fait un exemple vraiment très précieux pour les gens qui peuvent suivre la façon de trouver la manière de donner les choses après que les chorégraphes aient disparu.
Par rapport à ce projet, les plus grandes difficultés de répétition?
Heureusement, grâce à Yorgos, j'ai pu venir avec 3 assistants. Et comme ça, dans une salle, on fait la première partie, deuxième partie, troisième partie, et dans le temps que nous avons eu. Et aussi, c'est grâce à la recherche de Mary Helen avec son assistant Helen Rouvard. Elle a fait beaucoup de préparation. Sinon, on n'a pas pu faire dans si peu de temps ce projet. Mais moi, je suis très heureux avec le résultat. Je pense que c'est vraiment magnifique. Je suis très,
merci.
Très content.
Alors, sinon, moi, j'en ai une. Alors, il y a un lien, semble-t-il, entre une pièce que vous avez écrite avant Dance, qui est Ride Your Courses. Et donc Dance, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est ce lien en fait?
Radio Courses s'était fait en 1976 avec 4 danseurs. Et c'est une danse circulaire avec les passages semi-circulaires et 3/4. Donc c'est une alternation
des
deux phrases très simples. Et c'est un ballet qu'on a gardé dans le répertoire, qu'on continue à jouer. C'est intéressant pour mes danseurs de maintenant de faire une pièce de cette période et de voir qu'il y a les choses très difficiles de garder le même timing, les pulsations. Il faut travailler comme une équipe pour faire ce genre de ballet.
Mais je vous laisse la parole, c'est une petite incidence. Je crois qu'on est tous fascinés à l'idée de revoir le ballet, en tout cas en ce qui me concerne. Bien, bah écoutez, je crois que le silence est éloquent. Il est admiratif, je pense. Merci à vous. Merci Lucinda d'être venue. Merci Yorgos, merci Marie-Hélène. Vous allez rester avec nous parce qu'on va parler de Cunningham et vous êtes aussi partie prenante de ce tout Cunningham en images qui va être présenté à partir de demain à la salle Béjart. Merci.
À l'instant, Lucinda Childs, Marie-Hélène Rebois et Yorgos Loukos au micro de Lise Hoth. Rendez-vous demain à 20h pour une autre conférence.